Et maintenant, c'est éclectique.
La voix reste la même. Dao Étienne, un matin de novembre 2013, chez lui au nord de Paris. Son nouvel album, Les chansons de l'innocence retrouvée, sort demain. Et le tout fut enregistré à Londres, studio B d'Abbey Road, celui des Beatles. Sont venus jouer Nile Rodgers, le gars qui faisait entre autres la guitare cocotte sur la chanson Le fric c'est chic, et qui fut récemment invité sur l'album de Daft Punk. Dans le studio B d'Abbey Road s'est arrêté aussi Debbie Harry de Blondie, et Dominique A a signé une chanson. Et puis l'été a passé, un été rude, puisqu'Étienne Dao a eu un sérieux problème de santé, une péritonite, dont il est totalement remis aujourd'hui. On entre dans son disque comme dans un film, la bande originale d'un moment de vie, sans cesse renouvelée. Le seul défaut de ce gars, en fait, c'est de n'avoir que du café soluble dans sa cuisine. Un nouvel album de Dao sort et Éclectique commence par l'évocation du tout premier. Ça s'intitulait Mythomane, c'était en 81. Dao portait blouson rouge et t-shirt blanc sur une pochette signée Elie Medeiros. Les arrangements étaient Jacno. Les maquettes de ce disque sont disponibles dans le commerce aujourd'hui. Alors les maquettes du Dao 1981, commentées par le Dao 2013. Bienvenue, c'est Éclectique.
Je savais pas du tout que ça existait. Et c'est comme si je re-rentrais dans ma chambre. Très très étrange.
Je me raconte des histoires à dormir debout. Ma vie n'est pas à se tordre de rire. J'y emploie tout mon temps. Et ça ne suffit pas. Alors que je ne tourne pas.
Excuse-moi. Plein de fois, mais j'ai dit alors vachement plus tôt que prévu.
Et donc il y a toutes ces maquettes où on s'arrête, on rit, on parle, on recommence. Et il y a une espèce de...
Non, la première est de deux.
C'est étrange parce que tout est là, je me reconnais complètement. Je me rends compte à quel point j'ai pas changé. Et. Qui avait déjà une vision très précise du son, de ce que ça allait être, de comment j'allais m'exprimer.
Je me raconte des histoires à dormir debout, et ça ne suffit pas. Alors.
Vous dites, je me reconnais. Vous reconnaîtriez quoi?
Je reconnais ma voix, je connais mon obstination sur ce que j'ai envie d'entendre. Donc je suis un peu... j'essaie de gueuler, mais tout en étant gentil. J'essaie de dire que c'est pas ça, mais c'est du mal à...
Et c'est un atout de ne pas écrire la musique?
Bah, la complexité est de bien s'entourer, en fait. D'être entouré de gens qui comprennent votre vision des choses, c'est essentiel.
Et vous communiquez comment, alors?
Je chante tout. Je chante la basse, la batterie, les guitares, je chante. Et c'est assez clair, hein. Enfin, je crois que tous les musiciens avec lesquels j'ai travaillé, ils aiment bien cette manière de travailler. Ça ne les dérange pas, en tout cas.
Donc vous allez voir le bassiste et vous dire voilà, j'aimerais ça, hop, vous chantez le truc.
Ce qui me plaît presque le plus, c'est pour les batteries, par exemple. J'ai vraiment une idée très précise de ce que je veux entendre à la batterie. Donc je peux travailler assez longtemps sur plein de petits détails qu'on n'entendra pas forcément de manière évidente, mais qui vont accompagner la voix, entourer la mélodie. Je peux rajouter un tas de petits instruments.
Et donc vous faites les bruits?
Oui. Ne me demandez pas de le faire.
Non, je ne peux pas faire ça.
Je vous imagine juste aller voir un batteur en disant alors là, tu vois, j'aimerais un Poumtchak, et puis là, tchitchi.
Bah, le batteur avec lequel j'ai travaillé, pas sur cet album-là, mais sur le précédent, où vraiment le travail sur la batterie a été très intense, je crois que lui, il était vraiment content que quelqu'un s'intéresse autant à l'instrument et essaie d'en tirer quelque chose de différent.
Et alors, sur ce disque-ci, c'est quel instrument qui vous intéressait ?
Peut-être la guitare, parce qu'il y a beaucoup de guitares rythmiques. Et je crois que c'est les guitares ont aidé à faire groover, parce que je voulais vraiment que ce soit un album de groove symphonique. Et donc, il fallait vraiment que ça tourne. J'écoute beaucoup de soul, et dans la soul, il y a vraiment cette espèce de choses qui tournent sans arrêt, quoi. Enfin, c'est hypnotique. Je voulais ça.
Extrait de la chanson « L'homme qui marche », un des titres du dernier album d'Étienne Dao.
Piazza Navona, j'étais là très tôt ce matin. Je te cherchais, à vive allure, le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison, mais me voici à Rome, devant chez toi. L'escalier à sa chambre et dans ce froid que l'enfant du roi fou en bas de chemise légère dans son âme tous nos mystères de Berlin de Moscou. Des photos d'un anneau sont accrochées au mur devant lui et ce moi et celui et celui. Je t'ai attendu dans ce ras de triste, il était trop tôt pour ma défaite.
Toutes ces chansons, je crois qu'elles ont été écrites à Londres.
Ouais, elles ont été commencées ici, sur cette table là-bas. Et c'est là où on a fait toutes les maquettes. Et les deux premières chansons étaient L'homme qui marche, qui est ma préférée, et Un nouveau printemps, qui étaient vraiment deux chansons qui d'un coup ont installé le climat du disque. Et tout d'un coup, ça a été vraiment tellement évident.
L'homme qui marche ?
Oui, parce qu'elle est construite en plusieurs épisodes, en fait. Elle est un peu particulière, un peu étrange. Était le produit d'un petit séjour que j'ai fait à Rome. Et est arrivé comme ça, c'était comme un petit film. Et vraiment, j'adore cette chanson. Je pense que c'est peut-être une de mes cinq chansons préférées de tout ce que j'ai fait. Elle est un peu folle, elle a un côté un peu dingue. Elle a un côté un peu inhabituel, pas dans les clous. Et puis, elle évoque des images. Elle m'évoque des choses, elle m'évoque des sensations qui me paraissent justes. Il y a une autre chanson comme ça qui s'appelle Saudade, que j'avais écrit il y a très longtemps, dans les années 90, et qui m'évoque ça aussi. C'est-à-dire que quand je l'entends, ça m'évoque vraiment des choses d'une telle précision que quand c'est tellement précis, on se dit, bah, voilà, là on est bon. Quoi. Là, c'est,
Et il n'y a pas des chansons qui vous résistent ?
Ah si. Oui, des petites salopes qui nous résistent. Non, mais les chansons sont comme des gens, en fait, sont comme des personnes. Il y a des gens et des chansons qu'on peut pas, on peut pas contrôler, quoi. Il y a des chansons qui s'imposent. On peut pas les métamorphoser. Il y a eu des chansons sur cet album où vraiment on n'arrivait pas à les transformer, quoi. Il y a de la résistance, qui sont les chansons de l'innocence et la peau dure.
Qui sont les deux premiers extraits qu'on a entendus à la radio.
Tout à fait. Et donc, je les avais mis de côté, et il y a quelqu'un qui travaille chez Polydor qui m'a dit, mais non, vraiment, il faut pas les abandonner, ces chansons, il faut continuer à travailler dessus. Et ces chansons nous résistaient, elles étaient presque trop évidentes par rapport au reste de l'album. Et donc, j'avais peur que ce soit un peu décalé par rapport au reste. Et en fait, on les a vraiment triturées dans tous les sens, on les a vraiment torturées, ces pauvres chansons. Et finalement, elles sont restées telles qu'elles devaient être, quoi. Moi, j'ai cédé, en tout cas. J'ai baissé les bras. Et voilà, elles sont comme ça.
C'est elles qui ont gagné.
C'est elles qui ont gagné, oui. Ouais.
La peau dure, l'un des morceaux des chansons de l'innocence retrouvée. Dernier album d'Étienne Dao.
bien sûr. Je connais tes plaies, tes blessures, cyanure. Tes souvenirs ont la peau dure, fêlure. À chacun son chemin, chacun ses déchirures. Mais je les ressens comme toi. Fracture, poussée seule sur un tas d'ordures. Torture, redoutée d'être une imposture. Froidure, qui nous gerce le cœur et rouille les jointures. Oui, je les ressens quand les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, poussant l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Griffure, je lèche ta triste figure. Morsure, ton sang et ses éclaboussures. Roulure, les salauds qui peu à peu nous ont à l'usure. Oui, je les ressens. Quand les larmes de l'enfance, toute la vie son murmure, où sont l'épaule et les mots qui te rassurent. Oui, les armes de l'enfance te font le cuir et l'armure, et assèchent les rivières que tu pleurais hier. Bien sûr, je connais tes plaies, tes blessures, cyanure. Tes souvenirs ont la peau dure, fêlure. À chacun son chemin, chacun ses déchirures. Mais je les ressens comme toi. Oui, je les ressens comme toi. Oui, je les ressens comme toi. Oui, je les ressens comme toi.
Étienne Dao, Rebecca Manzoni. Il y a beaucoup de chansons dans l'album qui sont des premières prises, hein, qui sont des premières voix. La peau dure, notamment, est une première voix. J'ai jamais réussi à la refaire. J'ai trouvé que j'avais quelque chose de très spontané dans la première prise que j'ai jamais retrouvé quand j'ai voulu la rechanter. La première fois, je me suis dit, bon voilà, je la referai en mieux. Et puis, quand je me suis dit, bon bah là, maintenant, ça y est, c'est pour du def. Là, tout d'un coup, c'est l'angoisse de ne pas faire aussi bien.
Et justement, au fil des albums et d'un parcours comme ça, est-ce que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de maintenir cette fraîcheur? L'album s'intitule « Les chansons de l'innocence retrouvée ».
Je ne l'ai pas perdu, hein. Je ne l'ai pas complètement perdu. L'innocence, ça revêt plein de choses. L'innocence, c'est aussi l'image que les autres projettent sur vous. Et ce que vous devenez grâce à ce que les autres projettent sur vous, ou à cause. Et s'en débarrasser, c'est retrouver un peu de son innocence, un peu de sa fraîcheur.
C'est-à-dire que ce qu'on projette sur vous, ça peut complètement vous phagocyter ?
Oui.
À quoi vous pensez, par exemple ?
C'est devenir un adulte, voilà. Et l'innocence, c'est revenir à cette fraîcheur qu'on a quand on n'est que dans l'intuition. Moi, je fonctionne beaucoup avec l'intuition. Je ne suis absolument pas du tout rationnel. Je n'analyse pas. Pas trop. Je suis obligé pour pas faire trop de conneries, pour pas faire trop de faux pas dans mon travail, mais si je commence à trop réfléchir, je suis sûr de me planter.
Mais par exemple, pour vous, qu'est-ce qu'on projette sur vous ?
J'ai toujours l'impression, ou alors enfin dans mon entourage, dans ma famille, de ça, d'être un peu celui qui arrange les choses, celui qui protège un peu, celui qui est solide dans sa vie. Pour la plupart des gens, de ma famille en tout cas, et de mes amis, je suis cette personne-là. Je rassure. Pour les gens avec lesquels je travaille aussi, la plupart du temps, le groupe par exemple, je dirige parce que je produis, etc. Donc je suis celui qui dirige les choses. Et je me suis rendu compte avec cet épisode de l'été dernier, que j'appelle le truc.
Vous appelez ça comme ça ?
Oui. J'appelle ça le truc parce que je trouve que c'est extérieur à moi. J'ai jamais réussi, pourtant c'était assez grave, j'ai jamais réussi à accepter que c'était quelque chose qui faisait partie de moi. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, en faisant des projections, il y avait les gens qui avaient une forme de maturité qui sont venus vers moi, qui n'ont pas eu peur de ce moment. Et il y a eu plein de gens qui ont absolument disparu. Et c'est étonnant, je leur en veux pas du tout, c'est un truc de maturité, je pense qu'on peut pas... Je pense que la projection justement de celui qui protège et de celui à qui n'arrive rien n'a pas collé tout d'un coup avec ce qui s'est passé. C'est un exemple. Après, les projections de l'image publique, elle est multiple, elle dépend des gens. Les gens pour qui je suis le chanteur de pop, léger, timide, voilà. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je ne suis pas timide, mais plutôt réservé. Et je ne suis pas du tout léger. Je crois que c'est plutôt une manière de donner le change. C'est une courtoisie.
De dire des choses sombres avec légèreté.
Oui, c'est ce que j'essaie de faire depuis toujours. Parfois, ça marche.
Et le tout, c'est de réussir à rester soi dans toutes ces projections-là, quoi, de s'y retrouver.
Ah oui.
Et ça prend du temps ?
Ça peut.
Dans votre cas, ça en a pris ?
Un peu, oui.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer, du temps et des étoiles tombées, que de temps passé en surface. Ce sont les vers de la chanson « En surface » que Dominique A. a écrite pour le dernier album d'Étienne Dao. Dominique A., le voici. En 1994, sur France Inter et au micro d'Alain Poulenges, Dominique A. avait 26 ans.
Je commence tout juste à me dire que je vais faire une carrière, parce que c'est... Enfin, une carrière, c'est pareil, c'est comme morceau, une carrière, c'est un endroit où on casse des pierres, c'est un peu bizarre comme terme. Mais bon, c'est ça aussi, quoi, on casse des pierres aussi dans ce métier.
Et donc d'être vedette.
D'avoir un succès d'estime, une reconnaissance par rapport à mon travail. Mmh. Maintenant, être une vedette, c'est délicat. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je n'ai jamais été une vedette. Et je crains fort que ce ne soit pas mon truc. Enfin, je suis à un stade de reconnaissance que je trouve tout à fait enviable auquel j'aspirais. Au bout d'un moment, j'ai aspiré. Mmh. Mais je ne sais pas si j'ai envie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en termes de reconnaissance publique, je dirais. Je pense que le vedettariat, s'il me tombe dessus, c'est que j'aurais quand même bien cherché. Quoi.
Pourquoi vous riez ?
Je ris parce que... Enfin, je ris parce que je trouve ça très attendrissant. Et puis surtout, je trouve que... Enfin, qu'il a gardé sa ligne. Hein ? Il dit la même chose. J'aime beaucoup l'idée que faire une carrière, c'est casser des pierres. Il y a beaucoup de malentendus, beaucoup de... On est entre deux feux, on est entre l'envie de rester un artiste et donc de ne pas se montrer, puis l'envie que ces disques marchent très bien. Donc il faut faire les choix les plus justes par rapport à ses aspirations. Il faut essayer de rester cohérent et de rester droit par rapport à ses envies.
Et ça,
c'est par exemple, il y a des moments où j'ai envie d'avoir des tubes. Et puis il y a des moments où je fais des albums où ça ne me dérange pas du tout que les albums soient plus confidentiels. Là, j'ai envie d'avoir un tube, par exemple. Là, j'ai envie que ça marche. L'invitation, j'ai toujours envie que ça marche, mais je m'en foutais un peu plus.
L'invitation, précédent album d'Étienne Dao, sorti en 2008.
Depuis quelques années, j'étais un peu plus détaché par rapport à ça. Là, j'ai envie.
Mais alors, on fait comment dans ces cas-là ?
Savoir comment on fait un tube, si j'avais le secret, croyez-moi.
Mais c'est pour ça que je trouve que... Bon, vous en avez fait pas mal, quand même.
Oui, j'en ai fait beaucoup, c'est vrai. J'ai cette chance d'avoir des chansons qui restent, quoi.
Mais c'est pour ça que je trouve presque bizarre cette expression de dire « j'ai envie d'un tube ».
C'est pas juste, voilà, c'est une énergie, quoi. Un tube, c'est, ça reste, quoi. Ça reste dans la tête des gens. Mais même quand on n'aime pas les chansons, moi j'ai des tas de chansons que j'aimais pas ou qui étaient vraiment des choses que j'aimais pas du tout. Et je peux me chanter les paroles par cœur.
J'aimerais vous faire écouter des musiques et puis une voix.
Ouais, d'accord. C'est Amanda Lear, c'est Follow Me, c'est ça. Hein. Ça fait partie des albums que j'ai écoutés quand j'écrivais ce disque. Évidemment, tu me prenais pour un fou, mais moi je trouve ça vachement bien ce disque. Je trouve qu'il y a beaucoup, c'est très décadent et sulfureux. Et je trouve que musicalement c'est vachement bien. Les textes, c'est l'histoire de Faust en fait, devant son âme au diable. Alors il faut peut-être envisager le parcours de ce personnage dans sa transversale, quoi. Moi je vois plutôt Dali, Roxy Music, David Bowie, etc. que
Sachant qu'Amanda Lear a effectivement fréquenté tous ces personnages, Mick Jagger.
Oui. Je pense que c'est quelqu'un de vraiment intéressant, qui a un parcours vraiment passionnant, quoi. Très atypique. Mais surtout, ce disque, je le trouve vraiment, vraiment vachement réussi. Je sais que ça peut surprendre, hein, mais je m'en fous. Enfin, j'ai toujours. J'ai pas de problème à. C'est un album qui date de 77, donc en pleine période comme ça de punk, il y avait un côté très punk quand même dans l'attitude que j'aimais bien.
Autre chose.
Jamais je n'aurais cru que tu me plairais toujours, oh mon amour. Jamais nous n'aurions pensé pouvoir vivre ensemble sans nous lasser. Jamais ne dis jamais que tu m'aimeras toujours. Mon amour, jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, mais connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour au jour le jour, que notre amour est un amour sans lendemain.
J'adore cette chanson. C'est Anna Karina. C'est la chanson de Pierrot le Fou, de Godard. Et c'est une chanson qui était que moi j'ai connue par contre par Jeanne Moreau, d'abord. Sur un album, deuxième album de Jeanne Moreau. Et c'est une chanson que j'avais envie de chanter en ouverture de concert. Mais ça s'est jamais fait, en fait. Alors que rentrer avec cette chanson, comme ça, il y a un côté très direct. D'abord, il faut rentrer sur scène avec une guitare. Et la chanter comme ça, je le ferai un jour, je pense. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une très belle chose à communiquer avec ça. Sur le fait d'aimer sans rien promettre.
C'est une chanson de Serge Resvani.
Ouais, j'adore ces chansons-là. Parce qu'il y a vraiment toute la vérité, l'authenticité de ce qu'on peut ressentir avec une simplicité de l'écriture. C'est vachement dur de faire simple. Quand on écrit, c'est d'une complexité. Mais je pense que c'est une génération d'auteurs qui n'a pas été biberonnée à tout ce qu'a eu la génération d'après, dont la mienne, les générations d'après. Parce que nous sommes passés par tout le rock et la pop anglo-saxonne, toute ma génération. Donc il y a eu quelque chose qui s'est produit, on a une espèce de double culture. Et ça change beaucoup la manière d'écrire. Donc écrire devient un exercice presque mathématique de faire rentrer une émotion authentique et un texte qui paraît relativement simple dans un cadre de la pop qui est très très rigoureux, qui est très complexe en fait. C'est comme un exercice de maths. Quand j'écrivais les chansons du dernier album, d'abord j'ai mis un temps fou à écrire les textes parce que j'écris beaucoup pour chaque chanson. Il peut y avoir un demi-cahier. Et puis après, je
un demi-cahier d'écriture ?
Ah oui, ça peut, oui. C'est-à-dire que je dois écouter la chanson tout le temps. Donc je faisais des grandes marches à Londres. Je partais marcher dans la ville qui est grande. Donc tu vois, je vais me retrouver dans des endroits absolument un peu improbables parce que vraiment, j'écoutais la musique et donc la musique m'évoquait des choses et donc je prenais des notes. Et donc je me levais tous les matins à 6h du mat pour écrire les textes. Jusqu'à ce que j'ai envie de foutre ma table par la fenêtre. Et donc il fallait que je sorte en hurlant et en courant dans la rue pour marcher, pour ne pas devenir dingue. Et puis après le travail consiste à simplifier, de manière à avoir des textes dont on a l'impression qu'ils auraient pu être écrits très très simplement, très vite, comme ça, sur un coin de table. C'est mieux.
C'est vrai qu'il y a cette sensation-là avec Rezvani, qui a écrit aussi Le tourbillon de la vie.
Quel talent, quelle force. Parce qu'il y a ceux que j'admire aussi, qui sont ceux qui ont utilisé les jeux de mots. Je pense à Bobby Lapointe. Je m'étais beaucoup inspiré de lui pour une chanson que j'avais faite à Charlotte Gainsbourg qui s'appelle « If ». Le fait que j'ai chanté avec Charlotte ou Maudia Gainsbourg, parce que tout d'un coup, ça semble être la seule référence française, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi Bobby Lapointe qui avait ce système où le son des mots provoque le sens.
If excessif, accro-compulsif.
If adhésif, overréactif.
If exclusif.
Et quelqu'un comme Brigitte Fontaine m'a fait des plus beaux compliments qu'on m'ait fait en me disant cette chanson vraiment elle est très bien écrite. Et pourtant c'est une chanson qui semble être comme un espèce de jeu mathématique uniquement basé sur les sonorités de If.
Éclectique
avec Étienne Daou
sur France Inter.
Vous avez besoin d'admirer ?
Oui, j'ai besoin d'admirer, mais en général, hein. Pas que les artistes. Ça conditionne les rapports que j'ai avec les autres, mes rapports amoureux. J'ai besoin de ça, de cet élan. L'admiration, c'est très sexy. Hein. Et puis moi, je cache pas du tout mes influences, les artistes que j'aime. Je trouve qu'il faut renvoyer des fleurs aux artistes qu'on aime. Parce que voilà, l'inspiration, elle est née de ça. Après, on en fait quelque chose avec sa propre sensibilité. Hein.
Vous pensez qu'une chanson, ça peut changer une vie, vous ?
Oui, apparemment, en tout cas, il y a des albums qui ont changé ma vie. Tous les yéyés, d'ailleurs. J'adorais ça quand j'étais petit. Ça a tout de suite été quelque chose d'important pour moi. La radio, les hit parades. J'adorais ça.
Ça a participé à votre découverte de la musique ?
Bien sûr. Ah oui, oui. Je me souviens, j'avais un cahier où je notais les chansons qui montaient dans les hit parades, qui descendaient. On n'avait pas le téléphone, donc je ne pouvais pas appeler pour voter pour la chanson que j'aimais, mais bon. Et puis ensuite, quand j'étais adolescent, il y a le premier album de Pink Floyd avec Syd Barrett, et les albums solo de Syd Barrett, et surtout le Lou Reed, le Velvet Underground, ça a été vraiment... Je pense qu'à partir de là, ça a tout changé, quoi. Parce que c'était tout d'un coup une musique qui rendait adulte, parce que ce dont ça parlait, c'était tellement la musique de la rue, des outcasts, des gens qui ont perdu, en fait. Et c'est la première fois qu'on me parlait comme ça. Et puis il y avait tout ce mystère, cette pochette absolument incroyable avec la banane qu'on pouvait peler. Déjà, tout d'un coup, il y avait une œuvre d'art. Et puis ce mystère autour du Velvet, que quelques photos noires et blancs, très très belles, la proximité de Warhol, tout ça, ça faisait vraiment beaucoup travailler l'imaginaire. Ça a complètement changé l'adolescent que j'étais. Ouais. Et ça s'est accompagné de bouquins, les bouquins de Selby aussi. Last Exit to Brooklyn, c'était un peu le même genre de climat.
Tout ça, c'est pas des enfants de cœur.
Non, non, mais c'est ce qui m'attirait. J'ai toujours été attiré par la noirceur de l'âme. Ça m'a toujours fasciné. chez les autres et chez moi-même.
Les chansons de l'innocence, c'est le titre de ce morceau. Les chansons de l'innocence retrouvées, c'est celui de l'album qui contient 10 autres chansons, signées Étienne Daho.
Et Richard Dumas, d'ailleurs, qui est l'artiste qui a photographié la pochette de l'album.
Alors, je ne l'ai pas vue, moi, la pochette de l'album.
Ah, je vais vous montrer cette image. Elle est très belle. Enfin, c'est vraiment une image un petit peu particulière, qui reflète très très bien ce qu'est ce disque. Alors voici la chose.
Ah ouais, d'accord.
Alors, réaction, Rebecca.
Bah, c'est une photo magnifique.
Ah ouais, c'est beau, hein.
Étonnante. J'aimerais que vous me la décriviez.
Alors, je pose. C'est une porte qui est une porte un peu orientale, avec une jeune fille qui s'appelle Salomé, et qui est, on va dire, torse nu, comme ça qu'on dit.
Ah bah oui, là, bon. Oui.
Qui est torse nu et qui est blottie contre moi.
Qui en.
Voilà, c'est une photo noir et blanc qui fait un petit peu penser à Helmut Newton, je trouve, dans le style. C'est pas, de toute façon, c'est une photo qui n'est pas du tout prévue, si je peux vous raconter l'histoire de cette photo, parce que c'est assez incroyable.
C'est-à-dire que vous croisez des filles au sein nu comme ça, sculpturales
tout le temps.
Ah ouais.
En permanence. C'est mon karma. Non, en fait, j'étais avec Richard Dumas, qui est donc le garçon dont on parlait tout à l'heure.
Qui est photographe, qui a été guitariste.
Et on est parti faire des repérages à Ibiza pour faire la séance photo pour le disque. Et en allant dans un hôtel, enfin l'hôtel où lui dormait en tout cas, il a aperçu cette fille qui faisait des photos pour un magazine de Cher philosophique. Enfin, c'est-à-dire que c'est un magazine de photos de nu artistique avec des textes un peu philosophiques. Et à un moment, elle est passée près de nous et Richard lui a demandé de faire une photo avec moi. Comme ça, vraiment, ça a pris 2 secondes. Et donc elle a accepté gentiment, elle est venue tout près de moi comme ça, et elle... Ensuite, elle est partie vaquer à ses occupations, parce qu'elle était en pleine séance photo.
Et alors, pourquoi cette photo-là? Parce que tout à l'heure, vous avez dit...
Elle était évidente. Je trouvais qu'elle était la vitrine parfaite. On ne choisit pas une photo juste comme ça, parce que tout à coup, on se trouve bien. Elle était la vitrine parfaite après coup, alors qu'il n'y avait aucune raison que cette photo symbolise ce disque. Mais je trouve que cette personne, ce personnage, elle incarne à peu près tous les personnages de l'album. Elle a cette espèce de fêlure, elle est Francis Bacon, elle est Basquiat, elle est Camus, elle est Marilyn à New York, elle est tous ces gens qui sont dans le disque. Elle a un côté très détaché comme ça, presque Vénus de Botticelli ou même Joconde. Hein. C'est vrai que les seins attirent l'œil beaucoup. Mais elle a cette espèce de truc très beau dans son visage. Et puis je sais pas, je trouve que c'était la photo idéale pour ce disque.
Ça me fait penser à la pochette de La Peau Dure.
Alors du coup, c'est moi qui suis en monokini. Torse nu.
On vous voit...
On de faire des pochettes sexistes. Hein. C'est moi qui ai enlevé le haut sur la pochette de La Peau Dure.
Et pourquoi?
Bah parce que le photographe me l'a demandé. Évidemment, à mon âge et tout ça, ça me paraissait complètement saugrenu. C'était la séance photo pour les inrecuptibles. Pour la pochette des la couverture des inrecuptibles. Et Nicolas Hidiroglou, qui est un photographe que je connais depuis très longtemps, m'a dit « Tu veux pas enlever ton t-shirt ?» et tout. Je lui ai dit « Mais attends, t'es un grand malade. » Non, vraiment pas. Et puis, il a réussi à me convaincre. Puis finalement, j'ai enlevé mon t-shirt. Et puis, ça fait de très belles photos. Et c'est très étrange, d'ailleurs, parce que c'est les dernières photos. Parce qu'ensuite, voilà, après, il est arrivé des mésaventures. Et voilà, je trouvais que c'était une belle photo, La Peau Dure, ça, c'était une belle photo pour illustrer cette chanson.
Quand vous vous êtes projeté comme chanteur, vous vous projetiez chanteur sur scène?
Pas trop, non. En fait, j'avais ces chansons tout le temps dans la tête, ça me rendait fou, en fait, d'avoir autant de musique qui tournait dans ma tête sans arrêt. Là, je vous parle, donc ça s'arrête un peu.
C'est charitable.
Mais quand je suis tout seul, ou quand... oui, j'ai de la musique tout le temps, dans la tête, tout le temps.
Alors,
c'est comme une radio. On ne peut pas baisser. Il n'y a pas le bouton pour baisser, quoi. Il n'y a pas la pause.
Alors, vous pourriez écrire des chansons tout le temps?
Oui. Mais je fais de la musique tout le temps, hein. Tout le temps.
Mais être encore plus productif, alors?
Oui, mais enfin, je suis productif pour moi et pour les autres. C'est-à-dire qu'entre deux albums, entre deux de mes albums, il y a le travail pour les autres aussi, ou avec les autres, ou des projets un peu annexes, comme Le Condamné à mort, par exemple.
Le Condamné à mort, c'est un texte de Genet que vous avez couché sur disque avec Jeanne Moreau,
oui.
Que vous avez fait sur scène aussi.
Oui.
Il y avait déjà un titre de Genet que vous interprétiez.
Sur mon cou.
Sur mon cou.
Mmh.
Là, Le Condamné à mort, c'est un poème qu'il a écrit...
C'est le premier. Il a écrit en prison sur des morceaux de sacs en papier, de feuilles qu'il récupérait.
Et c'est un poème qui est comme un fantasme autour d'un jeune homme qui a été condamné à mort.
Enfin, pour qui a connu l'amour fou, le désir fou. Ça, justement, ça a touché beaucoup plus de gens que ce qu'on pensait, en fait. Ce qui a été extraordinaire, c'est de sortir, en fait, le texte de son ghetto, d'une certaine manière, pour le rendre très universel. Tout le monde peut s'identifier à ce texte, en fait. Même si de temps en temps, il y a des mots un peu crus.
Oh bah carrément.
Ou un peu précis sexuellement, oui.
Et ça, ça,
c'est... ça, c'est drôle parce que quand on a répété avec Jeanne au début, quand on se partageait les textes à lire, hein, parce que moi j'avais jamais lu, donc j'avais une petite appréhension par rapport à ça. Je pensais qu'elle lirait, moi je chanterais. Puis en fait, elle m'a conduit à, justement à faire ce pas d'aller vers le théâtre d'une certaine manière. Et donc on se partageait, on lisait, on faisait des lectures ici, et on se partageait les moments. Et elle me disait, non, là, ouais, tu sais, trop masculin. Donc je savais que c'était pour moi. En général, c'était quand c'était devenu, ça commençait à devenir un peu chaud.
Bah ouais, parce que votre partie à vous, c'est très sexe, quoi.
Oui, oui, oui. Oui, ça ne m'a pas dérangé, je trouvais que c'était très relaxant.
Relaxant.
Oui, oui.
Rocher de granit noir sur le tapis de laine, une main sur sa hanche, écoute le marché. Marche vers le soleil de son corps sans péché et t'allonge tranquille au bord de sa fontaine.
Chaque fête du sang délègue un beau garçon pour soutenir l'enfant dans sa première épreuve. Apaise ta frayeur et ton angoisse neuve. Suce mon membre dur comme on suce un glaçon. Mordis tendrement le paf qui bat ta joue. Baise ma queue enflée. Enfonce dans ton cou le paquet de ma bite avalée d'un seul coup. Étrangle-toi d'amour, dégorge et fais ta moue. Adore à deux genoux comme un poteau sacré mon torse tatoué. Adore jusqu'aux larmes mon sexe qui se rompt, te frappe mieux qu'une arme. Adore mon bâton qui va te pénétrer.
Il bondit sur tes yeux, il enfile ton âme. Penche un peu la tête et le vois se dresser. L'apercevant si noble et si propre au baiser, tu t'inclines très bas. En lui disant, madame.
Ça a changé quelque chose pour vous, justement, d'être, de dire ce texte-là?
Ce qui a changé quelque chose, c'est de dire un texte qui n'est pas de moi. En fait, j'ai vraiment tendance à être très pudique avec ce que j'écris. Et donc, à peut-être ramasser un peu même au niveau vocal. Alors que là, tout d'un coup, j'avais l'impression voilà, de me laisser emporter par le texte, sans aucune timidité ni pudeur. Aucune.
Quand vous dites ramasser au niveau vocal, c'est-à-dire la pudeur, elle est aussi vocale, c'est ce que vous voulez dire?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est pour ça que Le condamné à mort est arrivé à un moment très opportun, parce que j'ai pu dire des choses de moi sans avoir à les écrire. Sur l'amour fou, sur la manière d'aimer un peu dingue, et puis sur le fantasme que l'amour fou... est accompagné d'une fin inéluctable. Pardon, c'est moi, je vous fais du pied.
le dernier exercice de l'émission, c'est une minute de solitude où vous êtes tout seul. Et c'est un exercice libre. Donc en fait,
ah, super.
Vous faites ce que vous voulez. Ça peut être une déclaration, vous chantez. La seule contrainte, c'est pas de silence.
D'accord, oui, parce que j'aurais été tenté de faire une minute de silence pour Lou Reed. Et puis, est-ce que je peux passer une chanson de lui?
Vous faites ce que vous voulez.
Ben voilà.
C'est... Donc, alors...
Avant que tout le monde arrive, j'étais en train d'écouter Songs for Duella, qui est l'album qu'il a fait avec John Kell pour Andy Warhol. Et... Voilà, je peux faire écouter cette chanson?
Ben, je vous laisse.
Ouais, parce que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre en vinyle, par contre.
Alors, je vous donne ça.
D'accord.
Vous
ça,
pouvez
ça
mettre
tourne.
Une bandoulière. Ouais. Du coup, voilà. Vous faites votre truc et quand c'est fini.
En vinyle, de toute façon, parce que ça sonne vraiment mieux. Et puis qu'on a un vrai rapport physique avec l'objet. Et puis qu'on respecte aussi l'ordre des chansons. C'est important pour un artiste, quand il fait un travail, qu'on respecte l'ordre de ses chansons. Une chanson qui s'appelle Small Town. Voilà, c'est parti. Ça risque d'être une minute de silence, ça a du mal à démarrer. Ah non, ça y est, c'est bon.
When growing up in a small town. Say, no one famous ever came from here.
When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did the castle come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Part is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below.
C'était ma minute avec Loulou.
Pour la bande originale d'Éclectique, Jean-Michel Montu, vous avez choisi La peau dure et les chansons de l'innocence, signé Étienne Dao, mais vous avez aussi pu entendre des extraits de Follow Me, d'Amanda Lear, de Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerai toujours en mon amour, une chanson de Serge Rezvani, interprétée par Anna Karina dans Pierrot le Fou, et puis un extrait de Small Town par Lou Reed.